toute l'après-midi. Après ça, on s'en revient pour la NSPW, puis on repart toute la journée samedi. Fait que je vais avoir le temps de cligner des yeux, dormir 2 heures, puis on va se reparler lundi. Passez une belle fin de semaine.
Salut.
Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Ensemble, prenons soin des autres. Bonne soirée, Marceau s'en vient. Demain, les demoiselles vont être là à partir de 14h. Bonne fin de semaine.
Boulevard te tient informé toute la semaine. Marceau le matin, 6h. Le pit stop avec Gravel, 7h45. Le point de Max, 10h. On en jase le midi. Gravel dans le retour, 14h.
Juste Gravel dans le retour peut faire ça.
Marceau le soir, 8h. Boulevard 102.1. Maintenant 100% parler en semaine. 100% talk.
Boulevard 102.1.
Allez, bonsoir Québec, bon jeudi, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1, c'est Yann Marceau qui s'installe pour les 60 prochaines minutes dans le podcast de Marceau le soir, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va passer certainement plusieurs minutes ensemble où on va se gâter. Je vous présente mon invité dans les prochaines minutes. Juste avant, on va regarder ce qui se passe côté météo pour ce soir. Beau ciel dégagé, un minimum de moins 5. Si vous avez le grand nez au vent, ben ce sera une température ressentie de moins 7 degrés ce soir. Demain vendredi, une journée qui sera somme toute nuageuse, avec peut-être un peu de neige en matinée, entre 2 et 4 cm annoncés, maximum de 0. Et pour ce qui est du week-end, c'est souvent ce qui nous intéresse, alternance de soleil et nuages avec un maximum de 0. Dimanche, ce sera de la neige intermittente avec un maximum de moins 2. Mon invité de ce soir, c'est le docteur Joël Monzé. Il est docteur en quoi? Il est docteur en neurosciences. On va parler d'intelligence artificielle. On va se projeter dans le temps. Vous allez voir, il y a plein de choses qui vont grandement vous impressionner sur le futur, sur le présent de l'intelligence artificielle. Je pince sur le piton, je me la ferme, puis on repart ça.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Notre invité de la soirée, Joël Monzé, il est docteur en neurosciences. On passe 60 minutes avec cet être que je trouve tout à fait exceptionnel. Salut Joël!
Salut, merci!
Beaucoup de boulot ces temps-ci?
Ouais, du fun! Tu sais, il y a plein de... C'est une période très, très agréable, en fait, pour pouvoir réaliser mes projets. Donc, ouais. Oui, c'est le fun.
Hey, on va parler d'intelligence artificielle ce soir, mais il y a un auditeur qui m'avait envoyé un message la dernière fois qu'on s'est parlé. Je pense qu'on parlait de TDAH et de médicaments. Et lui a une impression assez particulière. Puis, pour en avoir parlé avec ses amis, il n'en était pas rendu à ce processus-là, mais il dit « J'aimerais ça entendre Dr. Joël Monzé parler de ça. » Il y a des gens qui avaient le TDAH à la naissance, exemple. Il y a toujours un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Puis, ils sont nés dans les années 60, les années 70, les années 80. Puis, ils ont appris à vivre avec ça. Ils se sont donné des techniques, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ils sont devenus des adultes, 40, 50, 60 ans, sont rendus vieux. Puis, ils ont été habitués à vivre comme ça. Mais dans son cas, à lui, ce qu'il me mentionne, c'est que il a toujours eu cette impression-là, sans avoir été diagnostiqué, qu'il avait un trouble du déficit de l'attention. Lui, il n'avait pas le H à ce qu'il m'expliquait. Mais ouais. En vieillissant, il se rend compte qu'il est de moins en moins concentré. En vieillissant, il se rend compte qu'il y a des oublis qu'il ne devrait pas avoir. Il est dans des conversations au boulot où c'est des conversations qui sont très sérieuses, où il doit avoir un niveau d'attention à son paroxysme. Puis finalement, après 30 secondes, il regarde la mouche qui passe dans la fenêtre, puis il part. Et dans son cas, lui, il dit que ça s'est empiré avec l'âge. Ça se peut-tu, ça, que quelqu'un qui soit TDAH ait un TDAH qui s'empire avec l'âge, alors que normalement, on nous a toujours dit le contraire?
Mais en fait, les personnes qui t'ont dit le contraire sont peut-être pas nécessairement connectées avec ce qu'on sait de la science actuellement. C'est certain qu'il faut se rappeler que la psychiatrie, contrairement à toutes les autres médecines, c'est une médecine de clinique. C'est-à-dire que ce sont des consensus. Donc, par exemple, le TDAH, en fait, on a commencé à en parler en 1937 quand il y a un médecin qui s'est rendu compte aux États-Unis qu'on pouvait contrôler le comportement désagréable de certains adolescents en donnant des psychostimulants. À partir de là, on a commencé à le documenter. Ça a été utilisé notamment dans l'armée pour que les soldats ne se posent pas trop de questions quand on les envoie au casse-pipe. On leur donnait ces médicaments-là pour qu'ils attaquent l'ennemi, that's it, that's all, on s'en arrête. Je ne sais pas si tu te souviens, en 2003, il y a eu un pilote américain qui a fait un tir à mie en Afghanistan et qui a tué 5 soldats canadiens. Ça avait fait un tollé à ce moment-là. Puis le monsieur, en fait, a été condamné, enfin pas condamné, amené au tribunal. Et sa défense a été, et ça a été suffisamment bien solide pour pouvoir éviter la prison pour le soldat, c'est qu'il était sous dexédrine, qui est une des forme de psychostimulant. Donc, le médicament est là, et c'est ça le danger parfois, c'est que quand on associe beaucoup trop des comportements en fonction de la modification du comportement dû à des médicaments, on peut définir des maladies sans nécessairement qu'il y ait une maladie. Autrement dit, d'être hyperactif, c'est normal. D'être impulsif, c'est normal. C'est très utile au hockey, c'est très utile, comment dire, au soccer, au football, et ainsi de suite. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans ma tête, qui réfléchit beaucoup. Je suis pourri comme centre avant au soccer. Pourquoi? Parce que face au but, je réfléchis. Il faut être impulsif. Par contre, je suis excellent comme back droit, parce que là, je vois le jeu et je peux distribuer le ballon au joueur qui est le mieux placé. Donc, c'est une question souvent de comportement qui est adapté ou pas adapté. Mais c'est certain que si j'ai des comportements plus impulsifs, plus distraits et autres, je suis très créatif, je pense, je réfléchis, et ainsi de suite, ça peut déranger si mon professeur me donne un travail qui ne m'intéresse pas, qui ne me stimule pas, qui est hors de mon champ d'intérêt, et ainsi de suite. Alors là, je vais avoir des comportements naturels et normaux, mais inappropriés en fonction de ce qu'on attend de moi quand je suis à l'école. D'accord? Donc, la définition du TDAH, elle a évolué jusque dans les années 90, ou en 96, on a commencé en fait à parler vraiment d'un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Mais si tu te souviens d'une entrevue que j'ai faite avec toi et Anne-Isabelle Dionne, qui est une médecin avec laquelle je collabore beaucoup, on a écrit 2 articles à la demande de la Société européenne de médecine où on a relevé 52 causes différentes qui expliquent les symptômes en question. Donc, si une personne, par exemple, se retrouve dans un environnement psychosocial qui est de plus en plus exigeant, par exemple un travail, des réunions qui ne sont pas amusantes, des tensions financières, des gros enjeux complexes sur le travail, c'est possible que le cerveau, simplement parce que la charge mentale est trop élevée, va se mettre en fait à décrocher. D'accord? Parce que il y a un moment donné où ça ne va plus. Si la personne dort mal, qu'elle a de l'apnée du sommeil, d'accord? Mais veut pas, le fait de mal dormir, de faire de l'apnée du sommeil, ça induit notamment des symptômes qui ressemblent au TDAH. Et c'est toutes ces choses-là que malheureusement les psychologues n'évaluent pas. C'est des choses que les médecins n'ont pas le temps d'évaluer. Mais si on veut vraiment aider les gens pour que les gens puissent s'en sortir le mieux possible et apprivoiser leurs différentes caractéristiques, mais c'est certain qu'il faut qu'on regarde les choses autrement. Et une étude que j'ai vue sortie il y a 2, 3 jours dans le journal Les Affaires, qui s'occupe beaucoup de tout ce qui est entrepreneurship au Québec, montrait en fait qu'énormément d'entrepreneurs ont des caractéristiques de TDA ou de TDAH, d'accord? Et c'est ce qui fait leur vivacité quand ils travaillent. Maintenant, est-ce qu'on peut contrôler ça? Est-ce qu'ils peuvent avoir une saine habitude de vie? S'ils sont trop sédentaires parce qu'ils travaillent trop, là aussi, ça va amener des symptômes qui pourraient s'apparenter à du TDAH ou du TDA simplement, parce que leur corps est en besoin. S'ils mangent mal, ça aussi, ça va induire
Ouais.
des symptômes similaires.
Mais tu vois, moi, je pensais pas qu'on pouvait avoir ces symptômes-là quand on avait 40, 50 ou 60 ans. Est-ce que la technologie, exemple, quelqu'un qui est toujours habitué à avoir des vidéos de très courte durée, là, 10 secondes, 15 secondes, ça va tout le temps vite. Après ça, ben, ça va jouer sur les vidéos, ça va tout le temps vite. Est-ce que le cerveau d'un gars de 50, 60 ans peut justement, des fois, se dérégler au point où même plus capable d'écouter un film de 2 heures? Même plus capable d'avoir une conversation assez intense avec un individu pendant 20 minutes, 30 minutes, parce que le cerveau, il est habitué à aller super vite. Puis là, ben, à partir du moment où c'est plus relax, là, on décroche. C'est-tu les
Oui,
technologies qui peuvent nous mettre dans le trouble comme ça?
Complètement, et ça fait partie des 52 causes dont je te parlais tantôt, c'est que justement, c'est que tu as deux grandes voies dans ton cerveau pour pouvoir arriver à faire une tâche. Tu as une voie qui est très rapide, qui va donner de la dopamine très rapidement, sensation de réussite, de plaisir et ainsi de suite. Et c'est par exemple ce qu'on va utiliser si on mange du chocolat ou des chips ou de la malbouffe qui contient beaucoup de graisse, de mauvaises graisses malheureusement, et de sel. On va avoir tendance en fait à en manger de plus en plus parce que la libération de dopamine qui est faite à ce moment-là est tellement intense que au moment où on ne mange plus par exemple une chips, eh bien on est en manque, il y a un manque de dopamine, donc on a tendance en fait à réembarquer dans notre, en fait, notre main va replonger dans le sac de chips pour aller en chercher un autre. Donc si on est tout le temps sur des reels ou des petites informations très 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 rapides, eh bien on va vouloir rechercher ça continuellement. Au moment où j'arrête de regarder justement des reels ou des rapides, des tout le temps stimulés par les vidéos, mais je suis en état de manque qui est heureusement pas aussi dramatique que de la cocaïne, mais c'est exactement la même chose. Quelqu'un qui consomme de la cocaïne, quand il y a plus de cocaïne dans son corps, d'accord, ou plus assez, il est en état de manque et ça le conduit vers la cocaïne parce que la cocaïne va libérer énormément de dopamine. Donc ça, c'est une chose. Puis on a une autre voie qui est une voie lente, qui va nous amener à lire, qui va nous amener à réfléchir, qui va nous amener à mémoriser, qui va nous amener à comparer les connaissances que l'on a. Et ça, cette voie-là, elle existe. C'est ce que les étudiants ont besoin pour pouvoir réussir leurs examens. D'accord? Et c'est ce qui fait aussi qu'un entrepreneur ou qu'un gestionnaire a besoin, lui, de cette voie-là pour pouvoir faire son travail. Mais s'il est trop souvent stimulé par la voie courte qui libère beaucoup de dopamine, c'est difficile pour son cerveau d'aller, entre guillemets, vers la voie lente qui demande plus de temps pour aller chercher cette fameuse dopamine. Parce que ma satisfaction comme entrepreneur, c'est peut-être seulement quand j'ai signé un bon contrat, c'est peut-être simplement quand j'ai comment dire, mes états financiers, quand mon comptable les a fait, que je me rends compte que j'ai un beau dividende. Donc, je dois délayer à ce moment-là mon plaisir et j'ai beaucoup moins de dopamine à ce moment-là que le fait de regarder une petite vidéo courte sur mon téléphone.
OK. Donc, quelqu'un qui est en vacances cet été ou les vacances d'hiver s'en viennent, là, qui décide de remettre son cerveau à ce qu'il était lorsqu'il avait 20 ans, 30 ans, décide plutôt que d'aller sur les réseaux sociaux puis faire de la petite lecture, décide de lire un livre tranquillement. Il y aura une certaine désintox à faire pendant plusieurs minutes, si ce n'est que plusieurs heures, là, parce que
Oui.
ça va pas mal plus lentement lire un bon livre, là.
Ça prend 3-4 jours, en fait, pour désactiver ce mécanisme de
Hein?
dépendance. D'accord? Mais c'est faisable. Il y a d'ailleurs un beau livre d'Éric Baudet, qui est comment dire, un caricaturiste québécois, qui lui avait décidé de faire une déconnexion pour ses enfants parce qu'il se rendait compte qu'ils étaient trop souvent sur les jeux vidéo. Et c'est ce qu'il observait aussi, en fait. Moi, je l'ai observé en clinique pendant des années et ça prend 3-4 jours pour que le jeune ou l'adulte se dépose un tout petit peu. Et si justement, on a la possibilité, pendant les fêtes, de faire un break, de prendre quelques jours de congé, voire éventuellement une semaine, 10 jours, 2 semaines de congé, prenez un roman, prenez un livre. Écoutez, si vous aimez l'Italie, lisez un livre sur l'Italie. Si vous aimez les Romains ou les Vikings, lisez un livre sur les Romains ou les Vikings. Si vous aimez tel ou tel auteur, lisez-le. Tu sais, Dan Brown vient de sortir un nouveau livre. Moi, je suis un fan de Dan Brown. J'ai hâte à être à Noël pour avoir le temps plongé dans ce livre-là parce que. Une fois que je plonge dans un livre comme celui-là, je n'arrête plus. Donc, c'est certain qu'il y a des. Plus, il y a des préférences pour les hommes, il y a des préférences pour les femmes. Veut pas l'écriture n'est pas toujours la même, mais toujours est-il que si vous n'aimez pas les romans, ben essayez de vous intéresser à quelque chose, comme je disais tantôt, un pays, un moment historique ou des choses pareilles, juste pour pouvoir amener votre cerveau à rebrancher correctement la voie lente, de manière à ce que quand vous reviendrez au travail, vous serez tellement plus apaisé que d'être resté sur votre téléphone. C'est certain que vous avez peut-être des amis qui veulent vous souhaiter joyeux Noël. Programmez vos courriels, d'accord? Faites-vous plaisir, débranchez votre téléphone.
Oh, c'est une recommandation du docteur en neurosciences Joël Mauzé. Pendant le temps des fêtes, profitons-en pour se détoxifier de toutes les choses qui vont si vite, comme la technologie, Facebook, YouTube, TikTok. TikTok, c'est des vidéos de 10-15 secondes, ça va très, très rapidement, là. Moi, mes gars aiment beaucoup regarder d'autres joueurs de jeux vidéo sur YouTube. Puis c'est des vidéos qui sont faites, qui peuvent durer peut-être 20 minutes, 10 minutes, mais c'est toujours extrêmement rapide, donc sont constamment stimulés. Pendant le temps des fêtes, je vais suivre ta recommandation.
Et je vais même te dire, c'est encore plus toxique de regarder un jeu vidéo sans y jouer, parce qu'au moins, quand le jeune est en train de jouer au jeu vidéo, il est quand même minimalement dans l'action. Donc, il y a quand même son cerveau, il y a des parties de son cerveau qui vont fonctionner pour lui permettre de performer dans son jeu vidéo. Le fait de juste regarder une vidéo d'un jeu où il est justement hyper stimulé, c'est encore plus toxique pour le cerveau parce que toute la zone d'action et de réflexion nécessaire, on appelle ça les fonctions exécutives, pour pouvoir arriver en fait à agir sur le monde environnant, est complètement débranchée. Donc, toute l'énergie du cerveau, toute l'activité du cerveau est basée sur ces vidéos de jeux vidéo et c'est hyper toxique pour les jeunes.
Bon, je vais tenter de les sortir de là. Ça va me faire du bien parce que j'entendrai plus ce vocabulaire inventé des youtubeurs francophones marocains. Là. Wesh, j'ai la flemme, le daron, la daronne. J'ai appris que j'étais un daron. C'est mes enfants qui m'ont appris ça. Daron, ça veut dire papa. Maman, ça veut dire la daronne. Je pensais que c'était péjoratif. Donc là, je disais « Appelez-moi pas le daron! » Mais finalement, ils appellent leurs parents le daron. C'est un drôle de vocabulaire qu'on apprend là, des Marocains ces temps-ci, je peux vous dire, au Québec. Là.
Oui. mais je pense que c'est une des beautés de l'internationalisation de nos cultures, c'est que le français s'écrit. Oui, on connaît le français de France, on connaît le français de Belgique ou de Suisse est relativement similaire. Tu vois le français québécois, d'accord. Il y a une adaptation de ce langage, et il y a également le langage français du Maghreb ou d'Asie, par exemple, au Vietnam. Ouais. C'est quelque chose de beau dans la langue. Mais l'anglais vit la même chose. C'est l'anglais d'Angleterre est rarement parlé à travers le monde. L'anglais américain est beaucoup plus répandu que l'anglais d'Angleterre.
J'essaie de corriger le plus possible, là, mais il y a des choses qui apprennent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, qui me surprennent. Mais là, le daron, là, ça a été comme... Attends un peu, là, la flemme, avoir la flemme. Toi, j'imagine que tu as entendu ça depuis des années et des années.
Oui, ça fait partie du langage français courant.
Ouais, avoir la flemme, c'est ça me tente pas.
C'est s'ennuyer, pas avoir d'énergie. c'est ça. Oh non, papa, ne demande-moi pas rien. Ah, cher daron, ne me demande pas ranger le bois. Ouais. Maman, ne me demande pas de mettre la table.
Ben, c'est ça, c'est comme un langage codé que les enfants ont, puis sont bien contents quand nous, on comprend pas, quand eux peuvent, puis eux peuvent se jaser ensemble sans que les parents comprennent. On avait peut-être
mais
ce langage-là quand j'étais jeune.
L'argot a toujours fait partie de l'univers. C'est juste, il y a deux grandes sources d'argot. C'est le monde criminel, parce qu'il ne faut pas que les policiers les comprennent, et c'est les ados qui ne veulent pas que les adultes les comprennent.
Quand j'étais au secondaire, Joël, c'était le verlan. Les gens parlaient à l'envers. C'est ça. Ouais, les professeurs.
Et ça a été popularisé par Renaud.
C'est lui qui a fait
chanteur.
Ça? Ah oui!
Non, c'était là, ça existait, mais lui, il a utilisé le verlan dans ses chansons, donc il l'a popularisé. Donc, comme ça devenait quelque chose de populaire, aujourd'hui, le verlan n'est plus une forme d'argot.
Wow, on en apprend des choses. On va continuer d'en apprendre des choses ce soir puisqu'on a décidé avec Dr Joël Lemonzé, docteur en neurosciences, de parler d'intelligence artificielle. Je peux te dire que moi, je commence à en avoir plein mon casque de l'intelligence artificielle, les fausses vidéos, je suis plus capable. Mais l'intelligence artificielle, c'est plus que ça. L'intelligence artificielle, ça peut être ChatGPT, ça peut être tous les autres moteurs de... recherche entre guillemets qui tente de faciliter nos vies. Est-ce qu'ils veulent vraiment faciliter nos vies ou encore s'accaparer de nos vies? Ça, on le sait plus. Il y a des gens qui sont tombés en amour avec l'intelligence artificielle, des gens qui étaient seuls, qui se sentaient écoutés par l'intelligence artificielle. Ça commence à aller loin, Joël. On va-tu être capable de s'adapter à ça, au rythme où ça va?
Mais en fait, je pense que oui, on va finir par s'adapter. Par exemple, nos jeunes sont beaucoup plus habiles à jouer sur 4-5 formes de réseaux sociaux que nous, les gens de notre génération. On a plus de difficultés à passer d'un réseau à l'autre et de comprendre les codes de chacun. Les jeunes qui sont nés, je pense à l'âge de nos enfants, aussi bien les tiens que les miens, bah pour eux, passer de l'un à l'autre, c'est tout à fait normal et naturel. Ça devient leur habitude. Donc, je crois que oui, il y a un moment donné où ce qu'on appelle l'intelligence artificielle va devenir quelque chose chose de très commun. Mais le mot, le simple mot intelligence et l'autre mot artificiel, pour moi, me dérange beaucoup parce qu'en fait, c'est juste des algorithmes. Tu sais, il y a rien d'intelligent dans l'intelligence artificielle. Ce sont des algorithmes qui programment et qui définissent des trajectoires de réponse. Et en fonction de cette trajectoire de réponse, la personne peut avoir ou ne pas avoir éventuellement des réponses à ses questions ou à un plaisir et ainsi de suite. Bon, c'est certain que de voir des vidéos, des fausses vidéos, c'est plate probablement pour nous pour regarder ça parce que c'est désagréable. On ne sait plus trop si c'est vrai ou c'est faux. Moi, je m'inquiète des deepfakes, entre autres, parce qu'on va finir par avoir la difficulté à savoir si, par exemple, un homme politique a vraiment dit telle chose ou telle autre chose.
Il l'avait fait avec Barack Obama à un certain moment, puis les résultats étaient incroyables. Il y a des vidéos aussi d'animaux. Je trouve ça cute, mais en même temps, c'est peut-être dangereux pour l'éducation des enfants. Des animaux qui sont considérés comme étant des animaux extrêmement dangereux, où là, tu vois des adultes et des enfants s'approcher puis flatter l'animal qui est extrêmement dangereux. Là, on se rend compte que c'est de l'intelligence artificielle, mais dans la tête d'un enfant de 4 ans, 5 ans...
C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est un trucage. Je veux dire, quand tu regardes Star Wars, ils sont pas pour vrai dans l'espace en train de se batailler.
C'est vrai.
Donc, ce sont des trucages. Est-ce que les trucages sont adéquats ou pas? Et c'est certain je viens de parler juste un instant de deepfake, mais regarde ce que BBC vient de reconnaître suite à la plainte que Donald Trump a faite contre eux. C'est que c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est des journalistes qui normalement devraient être intègres, qui ont repiqué certains morceaux d'une entrevue de Donald Trump pour lui faire dire exactement l'inverse de ce qu'il a dit pour vrai, pour servir leur intention politique en arrière de ça. Donc, on n'a pas eu besoin de l'intelligence artificielle ou d'un autre. On a juste eu besoin d'aller chercher des morceaux. Donc, ça a toujours existé, je crois ça. La seule chose qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, si moi, je veux faire un trucage, par exemple, montrer que je suis en train de caresser un grizzly, d'accord, eh bien, c'est beaucoup plus facile avec les outils qu'on me donne aujourd'hui pour mon ordinateur. Alors que quand il y a 20 ans, par exemple, ça aurait été presque impossible. Je ne sais pas si tu te souviens de Jaws, qui est sorti en 76. Tu sais, c'est un film qui a fait la fortune de Steven Spielberg, mais on est impressionné parce qu'il y a des requins qui sont sous les bateaux, qui pourraient manger des êtres humains et ainsi de suite. On est dans une ambiance incroyable, d'accord? Jusqu'au moment où le requin monte sur le bateau de Roy Steiger. Et là, on voit que c'est un trucage. C'est un truc en plastique. L'effet de stress tombe complètement. Et quand tu regardes Jaws 2, Jaws 3, où ils ont essayé d'utiliser les prémices, des trucages vidéo, c'est plate à mourir.
Ouais.
C'est tellement évident que c'est un trucage.
Mais avec du recul, mais quand on l'écoutait, quand on était jeune, on avait l'impression que tout ça, c'était vrai. Là.
Et oui, mais c'est ça. Donc, le tout, c'est qu'on voit qu'il y a une évolution, et donc il y a une évolution dans la qualité du trucage, et il y a une évolution dans l'accessibilité pour monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, j'ai vu récemment des clips vidéo où il y a une personne qui s'amuse à reprendre des vidéos et de créer tout un univers, cinématographique pour créer un nouveau clip derrière la vidéo. Mais c'est d'une beauté incroyable. Et donc, la personne qui a créé ça, qui a passé son temps à jouer avec tout son logiciel, parce que le logiciel, c'est quelque chose de très, très créatif. Ça peut être très, très beau. Et c'est accessible à quelqu'un comme toi et moi qui veut se donner la peine de le faire. Alors que quand on avait Star Wars ou Star Trek, ça prenait des millions de dollars pour faire la même chose. Mmh.
L'impact que ça peut avoir dans nos vies, l'intelligence artificielle, est incroyable. Je m'inquiète pour certains trucs. Qui est derrière cette intelligence artificielle-là? Comment ils font pour payer tout ça, cette programmation? Avec Google, c'est assez facile, Joël. Si je cherche un restaurant, ça c'est banal, tu vas me dire, mais on va me proposer comme 150 restaurants. Avec l'intelligence artificielle, on va me proposer un restaurant qui est vraiment bien aimé. Est-ce que c'est vraiment le meilleur des restaurants ou c'est le restaurant qui aura placé peut-être le plus de publicité pour engraisser plutôt l'intelligence artificielle? C'est ce que je me pose comme question. L'argent derrière ça, nécessairement, ça va devoir être rentable un jour, l'intelligence artificielle. Puis comment ils vont faire pour rentabiliser tout ça, si ce n'est que de se pervertir en proposant des trucs qui, normalement, ne devraient pas être proposés?
Mais tu sais, les cookies faisaient déjà ça depuis des années et des années. Puis Google a déjà changé les règles du jeu au fur et à mesure, notamment il y a 5 ans, pour n'amener que l'information des gens qui payent la publicité sur Google. Donc de nouveau, c'est pas nécessairement un phénomène qui est nouveau par rapport à ça. C'est celui qui paye le plus va avoir à ce moment-là plus de visibilité. Mais quelle est la différence avec, par exemple, je fais de la fausse publicité ou de la bonne publicité, je ne sais pas. Mais quand tu regardes une chaîne de télé ou t'écoutes une chaîne de radio, par définition, la personne qui fait la pub, d'accord, qui paye la pub, va pouvoir être diffusée. C'est juste que le référencement des sites web ou la connaissance qui est transmise peut avoir un indice, dans le sens que d'avoir un résumé, par exemple, je pose une question sur est-ce qu'on a vraiment marché sur la Lune en 1969, d'accord? L'information que je vais avoir, est-ce que c'est une information qui est factuelle, qui est vraie, qui est plausible, ou c'est une information qui répond à certains groupes d'intérêts qui veulent nous faire croire ceci ou cela, d'accord? Et finalement, il y a un narratif qui va être encouragé versus d'autres. Essaye donc de parler avec TikTok, tout au moins sur la version chinoise, de la place Tiananmen où il y a eu la révolte des étudiants. Tu n'auras jamais l'information. Tu vas probablement la voir sur Google parce que Google n'est pas contrôlé par des intérêts politiques chinois. Donc, le tout, je pense que si on apprend à nos jeunes à développer ce qu'on appelle une littératie, c'est-à-dire une connaissance plus approfondie des outils, d'accord? À ce moment-là, on va amener l'esprit critique. Si les élèves, les étudiants, les adultes développent l'esprit critique et se posent des questions, ce sera moins dangereux. En science, il faut normalement aller chercher au moins 3 avis différents ou 3 articles différents pour pouvoir essayer d'évaluer est-ce qu'il y a eu des biais ou non dans la compréhension d'un phénomène qui a été étudié. Donc, si notre jeune utilise Google, utilise Firefox ou un autre outil de recherche, et qu'il est capable de pouvoir voir, tiens, quand je prends tel outil, voilà quel type de réponse je peux avoir, ça va lui amener une capacité de discernement qui va faire en sorte qu'il se fera beaucoup moins happé par ce qu'une compagnie veut faire. Le problème, c'est qu'on est tellement à cheval, puis on l'a vu tellement depuis la pandémie, mais surtout pendant la pandémie, mais ça s'est resté depuis là, c'est comme s'il n'y avait jamais qu'un seul et unique narratif, qu'une seule et unique vérité, d'accord? Et c'est ça qui devient dangereux pour nos sociétés, parce qu'en fonction des intérêts politiques, et derrière les intérêts politiques, il y a des intérêts financiers, c'est là qu'on risque en fait de se perdre.
Yoshua Benjo, qui est quelqu'un qui est une sommité au niveau de l'intelligence artificielle, là, avait déjà mentionné qu'on devrait peut-être faire une pause pour ce qui est du développement de l'intelligence artificielle. Il y avait d'autres experts aussi à travers le monde qui semblaient être d'accord avec lui parce que ça semble être une petite babette qui est incontrôlable. Pendant que nous, on va faire une pause, si jamais un jour, pause il y a, est-ce que la Russie va faire cette même pause-là? Est-ce que les Chinois vont faire cette pause-là? Ou de leur côté, ça va être le gaz au fond pour être sûr et certain d'exploiter au plus possible l'intelligence artificielle?
Mais moi, je te dirais qu'on a plusieurs exemples, comme par exemple toute la recherche sur les armes nucléaires, où on a essayé de faire des pauses, puis visiblement, ça n'a pas marché. Tu sais, le problème avec les Occidentaux versus l'Iran, c'en est un des exemples, comme quoi il y a des pays qui veulent absolument se doter de cette fameuse bombe. L'autre exemple, c'est le clonage humain. Le clonage humain est interdit dans les pays occidentaux, mais ça va allègrement, en fait, jouer en Chine. Les bombes biologiques et bactériologiques sont normalement interdites, mais on s'entend que one, s'il y a de plus en plus d'éléments qui démontrent que malheureusement c'est un accident qui est à l'origine de la pandémie il y a quelques années. Tu sais, au début, on disait que c'était une théorie conspirationniste, mais on sait aujourd'hui que non, ça vient de là. Mais il ne fallait pas trop taper sur les mains de la Chine à ce moment-là, parce que les Chinois, c'était nos amis, puis c'est eux qui finançaient beaucoup l'OMS. Donc, on se rend compte que oui, si on fait une pause, comme c'est proposé, il y a des pays qui ne feront pas cette pause-là. Je ne pense pas qu'une pause va changer grand chose, on est beaucoup trop loin, ça va très vite, mais si on développe des règles adéquates et qu'on se dote, d'accord, dans nos pays occidentaux de règles de fonctionnement. Par exemple, je sais qu'il y a de la recherche qui est faite en Californie actuellement, à San Francisco, dans la fameuse vallée de la Silicon Valley, d'accord, où le fantasme d'une compagnie, c'est de ne plus avoir besoin d'hommes et de femmes politiques. Et c'est l'intelligence artificielle, en fait, donc les algorithmes qui auront été sélectionnés, qui va déterminer si on est des bonnes personnes ou pas des bonnes personnes. Et en fonction de si on est une bonne personne ou une pas bonne personne, on va avoir des privilèges ou on n'en aura pas. D'accord ? C'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. La Chine est déjà coincée là-dedans.
Avec bulletin citoyen. La Corée du Nord aussi, c'est la même chose.
Exactement. Donc, il y a donc au moins une compagnie dans la Silicon Valley qui est en train d'essayer de proposer à nos gouvernements de faire exactement la même chose. Donc, si nous, en Occident, où on est dans des démocraties, on dit « nous ne voulons pas d'ingénierie sociale », d'accord, eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir arriver à mettre des barrières. Peut-être que ça existera en Chine et en Corée du Nord, mais ce sont des pays totalitaires. Donc, si nous, on se donne ces barrières-là, c'est une chose. Si on condamne le deepfake malveillant, j'ai bien dit malveillant, et qu'il y a de la prison d'une manière similaire, par exemple, à quelqu'un qui fait un acte criminel comme un vol ou un viol ou autre chose du genre, un meurtre, eh bien, à partir de ce moment-là, notre démocratie se met des barrières. Et une personne qui utiliserait un deepfake pour essayer de faire croire à une mauvaise information dans un objectif d'autofinancement ou de politique, si cette personne est coincée, elle va en prison. Donc, on peut se donner, en fait, des règles de fonctionnement qui vont faire en sorte que les outils technologiques qui sont à notre disposition vont nous permettre de définir qu'est-ce qu'on veut ou qu'est-ce qu'on ne veut pas comme société. Mais on est abusé. Parce que prends, par exemple, ce qui s'est passé à Nice il y a quelques années, où il y a eu un camion bélier qui a tué des dizaines de personnes au bord de la plage. D'accord ? Eh bien, Nice a été une des premières villes françaises à s'hyper équiper de caméras. Donc, c'est certain que l'analyse de la face de la personne va devenir un outil pour prévenir des drames comme celui-là. C'est peut-être utile, mais on a peur. Donc, quand parfois on va monter en épingle certaines situations dramatiques pour dire bon, on a besoin de contrôle, on a besoin d'ingénierie sociale pour éventuellement éliminer la criminalité, mais en même temps, on détruit toute possibilité de questionnement de qui dirige notre pays.
Est-ce que, en tant que docteur en neurosciences, ça va-tu avoir un impact sur notre cerveau à chaque fois qu'on a une question à se poser, on s'en va sur ChatGPT, puis on attend la réponse sans nécessairement réfléchir? Ça va à long terme, là, est-ce que notre cerveau va être de plus en plus paresseux? Parce que de mémoire, le cerveau a été programmé pour être paresseux, là, pour en faire le moins possible pour nous préserver. Est-ce que ça va accentuer ça, cette grosse paresse-là intellectuelle? Puis est-ce que ça va, selon toi, est-ce que ça pourrait avoir un effet sur la diminution du quotient intellectuel moyen à la grandeur de la planète?
C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, ça a été démontré par Michel Desmurger, qui est un collègue neuroscientifique français. Il a d'ailleurs écrit un livre là-dessus qui est sorti en 2019, « La fabrique du crétin digital ». En fait, on remarque, d'accord, que le quotient intellectuel, en fait, a diminué avec les plus jeunes générations. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de par cœur. Tu sais, quelque part, quand on était à l'école, puis je ne suis pas en train de dire qu'il y a une bonne chose ou une mauvaise chose, tu sais, je ne suis pas dans un jugement de valeur par rapport à ça, mais j'explique simplement le mécanisme neurologique. Si je dois apprendre un texte par cœur, et pas nécessairement de la connaissance par cœur, je parle par exemple un poème par cœur, à ce moment-là, je vais utiliser une structure dans mon cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Tu sais, tantôt, quand je parlais de la voix courte et de la voix lente, elle utilise l'hippocampe. L'hippocampe, D'accord? C'est une structure au cœur de notre cerveau qui est comme notre microprocesseur. Non seulement elle est essentielle pour pouvoir mémoriser des choses, mais c'est aussi l'hippocampe qui va commencer à jouer avec les différentes mémoires, d'accord? Les différents endroits où la mémoire est stockée dans notre cerveau pour essayer de nous amener à développer une pensée réflexive et nos fameuses fonctions exécutives. Donc, si je n'entraîne pas mon hippocampe à mémoriser des choses, d'accord? Mais à ce moment-là, je vais avoir de moins en moins de... Il va y avoir comme... C'est un peu comme si on ne m'entraîne pas. Si je ne m'entraîne pas, mes muscles vont s'atrophier. Donc, l'hippocampe finit par s'atrophier. Or, il y a deux choses importantes. C'est quand on est sorti du ventre de notre maman, l'essentiel, 99,99% de nos neurones étaient déjà présents dans notre cerveau. Et on va... ce qui fait que la maturation du cerveau arrive, c'est par les expériences que l'on vit. D'accord? Donc, on n'invente pas des nouveaux neurones au fur et à mesure du temps, sauf dans un endroit, l'hippocampe. Autrement dit, quelqu'un qui est tout le temps en train de développer sa capacité mémorielle, qui est en train de réfléchir, qui est en train d'analyser la situation, qui est en train de planifier des choses sur la base du passé et d'une anticipation du futur, l'hippocampe est hyperactif dans des moments pareils. Donc, non seulement il est en santé, il va utiliser les cellules souches ils sont disponibles pour devenir des neurones, donc l'hippocampe est de plus en plus utile. Mais si je n'apprends jamais rien par cœur, que je ne réfléchis pas, que je tombe dans un automatisme continuellement parce que je fais trop confiance à mon ordinateur pour me donner des réponses, ben je vais perdre cette fameuse littératie dont je parlais tantôt, une compréhension en fait des phénomènes ou des outils qui sont à ma disposition. Et pire, ben, une des structures qui est le plus abîmée par la maladie d'Alzheimer, c'est l'hippocampe. Donc, si on n'utilise pas bien notre hippocampe tout au long de notre vie, jusqu'à 60, 65, 70, 80 ans, on sera beaucoup plus vulnérable à développer des symptômes d'Alzheimer. Il faut savoir que cette maladie-là, 95% des gens qui la développent, ce n'est pas la génétique, ce sont nos habitudes de vie. Donc, si je n'ai pas des bonnes habitudes de vie, notamment au niveau de la connaissance et de la cognition et de la gestion de mes émotions ou de la régulation de mes émotions, eh bien, mon hippocampe va être dans mauvaise santé et il y a plus de risques que je développe une maladie et je me retrouve comme une crevette dans un CHSLD pour les 10-15 dernières années de ma vie.
Ce qu'on se souhaite pas.
Exactement.
Joël Monzé, tu es docteur en neurosciences. Si je te demandais de faire des prédictions dans 20 ans, est-ce que le métier de juge va exister encore? Est-ce que le métier d'avocat va exister encore? Est-ce que le métier d'ingénieur va exister encore? Est-ce que le métier de policier va exister encore?
Honnêtement, j'espère.
Ça va.
Mais peut-être que ça va devoir se faire différemment d'aujourd'hui. Dans le sens que, bon, prenons une voiture intelligente,
ouais.
Okay, qui se conduit toute seule. Nous, on est en train de faire un karaoké en arrière, on a bien du fun parce que la voiture fait la job à notre place. Éventuellement, on lit un roman, okay, où on est en train de faire un rapport pour notre travail et ainsi de suite. La voiture doit se déplacer. Il y a un incident sur la rue. D'un côté, il y a une personne de 50 ans. De l'autre côté, il y a une maman et son bébé. Il faut qu'un des deux soit sacrifié. En fait, une des deux situations soit sacrifiée. Laquelle sacrifions-nous? Ben, techniquement, on se dit, ben, on va essayer de protéger la maman et son bébé. OK. Oui, mais l'intelligence artificielle sait, parce qu'il y a une petite puce chez la personne de 50 ans est une personne importante. C'est par exemple un excellent ingénieur qui fait de la programmation des systèmes, donc de l'intelligence artificielle. Donc la voiture ne veut pas le tuer. Donc on va supprimer les deux autres, d'accord, la maman et son bébé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser un algorithme décider à notre place. Et je crois qu'un juge doit utiliser son sens de l'humanité pour interpréter la loi. Et c'est pour ça qu'un ordinateur ne fera jamais ça. Je vais te prendre un exemple, je fais du pouce. Quand j'étais ado, d'accord, que je faisais de la science à tort et à travers, pour moi, je rêvais d'un gouvernement dirigé par des scientifiques. Parce que moi, je disais, ben, ces gens-là, ils ont réfléchi, ils ont pensé, ils ont analysé, d'accord, ils sont déductifs, okay, ah, ils ne sont pas dans leurs émotions comme ceux qui veulent absolument se faire élire. Écoute, premièrement, les scientifiques restent rarement très longtemps en poste parce qu'ils sont déconnectés de la vraie vie sur le sol. C'est ce que monsieur, madame, tout le monde veut faire. C'est une des raisons pour lesquelles je suis très impliqué dans plein de temps de travail, mais jamais je voudrais être un député ou un ministre parce que justement, j'ai des biais de scientifique. Mais le plus bel exemple, c'est la gestion de la pandémie, où on a laissé, en fait, des algorithmes qui prévoyaient combien de morts on allait avoir, dicter des règles sociales. Or, on voit de plus en plus l'impact psychosocial, d'accord, d'avoir justement laissé beaucoup trop les scientifiques au pouvoir. Alors, je ne te dis pas qu'il n'y avait pas des enjeux politiques qui devaient être éventuellement mieux contrôlés, mais l'utilisation, en fait, abusive des algorithmes scientifiques ou des algorithmes d'intelligence artificielle ont fait prendre à certains politiques des décisions qu'ils n'auraient probablement jamais dû prendre dans d'autres circonstances. Donc, c'est là qu'on voit que l'humain est important. Et je préfère avoir un humain qui est, comment dire, faillible, qui fait des erreurs, d'accord, que d'avoir une machine qui détermine ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. D'ailleurs, ça avait été illustré dans un film avec Tom Cruise. Je ne me souviens plus du nom.
Minority Report.
Oui, exactement. Où l'intelligence artificielle avait pu prédire en fonction d'un certain nombre de petits éléments ou de petits indices que Tom Cruise allait faire un assassinat. Donc, avant même qu'il ait même pensé faire une gaffe ou un crime, d'accord, il était déjà mis en prison.
Ouais.
Donc, on ne peut pas laisser l'intelligence artificielle décider à notre place.
Est-ce qu'il y a déjà des tests qui ont été faits pour, je ne sais pas moi, en médecine? Il y a l'intelligence artificielle versus peut-être 100 médecins, puis on leur proposait un cas X d'un patient qui avait telle problématique. J'imagine que l'intelligence artificielle va aller beaucoup plus vite que le docteur qui est en train d'analyser
ça. Oui, puis il y a plusieurs compagnies qui actuellement sont en train de développer des logiciels incroyables qui vont vraiment aider le médecin à faire un diagnostic. Par exemple, en radiologie, c'est déjà démontré que généralement, les modèles basés sur l'informatique sont plus efficaces que ce que le radiologue est capable de faire.
Les plus gros salaires, Joël, sont en radiologie.
Je sais. En fait, c'est parce qu'avant, c'était hyper compliqué de faire et ça prenait beaucoup de temps, en fait, avec les technologies d'il y a 50 ans, de faire une évaluation. Et en fait, les salaires sont restés en fonction de ce qu'il y avait il y a 50 ans, alors qu'aujourd'hui, la technologie permet d'être tellement plus rapide. Et bon, ben, on a M. Barrette qui est radiologue et qui, quand il était président de la Fédération des médecins spécialistes, ne voulait surtout pas qu'on touche à sa corporation des radiologistes. Bon, après cet aparté, on peut voir en fait que oui, ça peut aider. Par contre, ce qui est démontré par ce qu'on appelle la santé mentale positive, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne va développer des aptitudes pour avoir un meilleur bien-être ou un mieux-être ou aller vers la guérison quand il y a un problème de santé ou pour prévenir un problème de santé. Ce qui est démontré aujourd'hui par la science depuis quelques années, c'est la qualité du lien entre l'intervenant, le thérapeute, et le patient ou l'enfant ou l'ado quand c'est dans nos écoles. Autrement dit, peut-être que le médecin va pouvoir être beaucoup plus rapide dans l'évaluation des connaissances ou des laboratoires qui sont à sa disposition, mais ce qui ne va pas changer, c'est la qualité du lien qu'il peut créer avec son patient pour que le patient adhère au plan de traitement. D'accord? Et ça, de nouveau, ça va rester. Ou ça peut être, mais ça va demander peut-être aux médecins de changer leur pratique, de changer la manière de fonctionner. En même temps, je ne m'embarquerai pas dans la loi 2. La loi 2, malheureusement, conditionne le médecin à prescrire des médicaments beaucoup plus rapidement, au mépris, à cause de la nécessité de performance et d'atteindre des critères. C'est au mépris de la qualité de la relation que le médecin peut créer avec son patient ou sa patiente pour le faire adhérer à un processus de transformation d'habitude, peut-être avec un médicament, mais peut-être simplement des habitudes de vie qui pourraient l'amener en fait à réduire en fait un certain nombre de symptômes.
On a le choix de se faire opérer par l'intelligence artificielle avec un robot et un laser en quelques minutes versus un chirurgien qui a étudié pendant des années avec énormément d'expérience. Le taux de réussite pour ce qui est du chirurgien est de 85 %, l'intelligence est de 100 %. On fait quoi?
Ben, je pense qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle sous supervision d'un chirurgien. Parce que si jamais, un peu, tu sais, l'exemple que je te donnais tantôt avec la voiture, c'est que si jamais il y a un élément qui n'a pas été codifié par l'intelligence artificielle, parce que ça n'a pas, il n'y a personne qui avait vu auparavant une situation comme celle-là, donc l'algorithme qui contrôle le bras de l'ordinateur pour faire l'opération n'est pas ajusté, il faut le jugement humain. Le jugement humain va être là. Mais si ton chirurgien ne sait pas, ne comprend pas la physiologie ou ne sait pas qu'est-ce que sa machine fait ou ne fait pas, d'accord, ben à ce moment-là, il ne sera pas capable de pouvoir arrêter la machine si la machine est face à une situation hors contrôle. Ce sont ces éléments-là qu'il faut conserver. Et de nouveau, c'est là que ça place l'être humain d'une manière différente. De nouveau, on revient à la connexion, au choix émotionnel, on vient au discernement qu'un ordinateur n'aura jamais.
J'ai un ami qui est programmeur analyste, puis j'ai posé, parce que je savais que j'allais faire l'entrevue avec toi ce soir, j'ai posé c'est comme question l'impact de l'intelligence artificielle dans son travail maintenant, et à 85 ou 90%, il travaille avec l'intelligence artificielle. Il est seulement là à 10% quand même. Fait que dans oui. quelques années, les programmeurs analystes, bon, ils vont peut-être devoir être là pour analyser la situation, mais n'en demeure pas moins que c'est l'intelligence artificielle qui va faire... Exemple aussi banal qu'un site web, on est capable de le faire avec l'intelligence artificielle en lui donnant d'excellentes commandes. T'sais. J'ai un ami qui a fait un site transactionnel en 3 jours avec l'intelligence artificielle. Et Joël, il est un peu comme moi, là, il n'avait aucune connaissance de base en informatique. Mais avec l'intelligence artificielle, il a réussi à faire un site transactionnel, alors qu'avant, ça prenait quelqu'un d'assez ferré pour faire ça.
Donc, ça démocratise, en fait, l'accès, un peu comme tantôt on parlait des trucages vidéo. C'est que le trucage vidéo coûtait énormément cher il y a quelques années, alors que ça s'est démocratisé. En fait, ça nous permet de démocratiser. Tu sais, si en bout de ligne, on réduit la pression sur les gens, qu'on travaille moins, qu'on profite un peu plus de la vie, qu'on va faire une balade en forêt, parce que au lieu de faire un site internet qui m'aurait demandé 3 semaines, je suis capable de le faire en 3 jours, ça veut peut-être dire que je vais avoir du temps, passer avec mes enfants, je vais avoir du temps pour aller faire du sport, je vais avoir du temps pour lire éventuellement un roman. Donc, ce n'est pas nécessairement... Le rapport à la performance, à la productivité, va éventuellement être très important. Mais si, en bout de ligne, on peut diminuer, en fait, comment dire, le temps qu'on consacre au travail et qu'on peut venir vers une vie beaucoup plus calme, ralentir, d'accord? De ne pas être tout le temps sur des critères de performance, performer, performer, performer. Notre charge mentale est tellement élevée actuellement. C'est le principal mal avec la sédentarisation qui préoccupe la plupart des professionnels de la santé. C'est la sédentarité et la charge mentale. Les gens ne vont pas bien. Donc, si les outils technologiques nous permettent, en fait, de réduire cette charge mentale et nous permettent de réduire la sédentarité, ça va être une bonne chose pour l'humanité. Si malheureusement on rentre dans l'ingénierie sociale et qu'on conçoit en fait l'être humain comme étant simplement une fourmi qui doit produire et qui doit consommer, ce qui est le fantasme des grands comme Jeff Bezos et compagnie ou Bill Gates, d'accord? Ben à ce moment-là, on utilisera mal les outils technologiques.
On passe la soirée en compagnie de Dr Joël Monzé, les docteurs en neurosciences. On parle d'intelligence artificielle. On va faire une courte pause et on continue la discussion tout de suite après.
Marceau, le soir. Le midi, pour tout savoir, tu te branches à Boulevard. Tout ce que tu dois savoir, on en jase. À Boulevard 102.1.
Moi, je m'interroge toujours sur comment M. Legault n'a pas mis les jalons pour assurer que son parti politique lui survit.
On dirait quelqu'un qui a monté une entreprise, qui a mis son nom sur l'entreprise, ouais. Genre Atelier mécanique Gaétan Laforce. Puis là, Gaétan Laforce, il dit...
Il n'y a pas de repreneur, là. On voit pas vraiment de relève qui pourrait vraiment faire mieux.
Bien là, on parle toujours de Mario Dumont, Mario Dumont, Mario Dumont.
T'es jamais aussi populaire que 15 ou 20 ans après que tu sois parti politique.
Il y a juste pour Justin Trudeau que ça marchera pas.
Attends, on s'en reparle dans 15 ans.
Il va en faire un enfant Katy Perry.
Jeff Fortin, Pascal Cévé, leurs collaborateurs te racontent l'actualité. Sans oublier le caucus avec Antonin Iaccarini à midi. On en jase. À Boulevard 102.1. Maintenant 100% parler en semaine.
Boulevard 102.1 célèbre ses 10 ans avec la Gravel édition 10 ans Boulevard.
Une bière blonde lager à 4,4 % légère, dorée et ultra rafraîchissante. Brassée par Malco, la brasserie de Charlevoix reconnue pour ses produits de qualité. Une partie des profits des ventes sera remis à la Bouchée généreuse pour aider les familles dans le besoin. Procure-toi la Gravelle dès maintenant en quantité limitée chez Chaloux, panier extra, à la brasserie Malco située au marché Jean-Talon, ainsi que d'autres détaillants de la grande région de Québec. Cheers!
Débutez la saison des raclettes avec le célèbre fromage Le Fin Renard de Fromagerie Bergeron en format tranchette. Ensemble de deux saveurs, originales et au poivre. En vente chez Maxi et IGA.
Si tu vas à l'événement d'équipement usagé de JLD Lagu, ton concessionnaire John Deere, ben toi aussi, tu pourrais s'y filer en travaillant.
À partir de maintenant, tes soupers vont changer pour toujours grâce à Alimentation FC. Arrête de courir partout parce qu'on te livre ça directement chez toi. Viande locale et naturelle, disponible dans plus de 300 coupes. Alimentation FC, la viande sans compromis. AlimentationFC.com.
Les Forts de Lévis électrisent le mois de novembre. Obtiens 11 000 $ de rabais sur ton F-150 Lightning pour seulement 799 par mois pour le modèle XLT 0 $ d'acompte. Le meilleur prix pour ton Ford, c'est chez Lévis Ford. Viens l'essayer dès maintenant.
Vous rêvez d'une cuisine haut de gamme? Simard réalise le tout à un prix plus accessible que vous le croyez. Profitez dès maintenant de rabais allant jusqu'à 5000 $ sur les projets installés entre le 1er janvier et le 30 avril. Des produits garantis 10 ans, une expertise unique et le meilleur rapport qualité-prix au Québec. Venez nous rencontrer. Les places sont limitées. Contactez notre équipe rapidement. Prestige, qualité, accessibilité. Simard Cuisine et Salle de bain à Québec, au 325 rue Dumarais.
New Look offre un 3 pour 1 sur ses marques.
Pour le vendredi fou, oui.
J'achète une paire, vous me donnez une deuxième paire plus une paire de lunettes soleil?
Pour le vendredi fou, oui.
Coudonc, si tu as fait des paires?
Non, c'est le 3 pour 1 du vendredi fou chez New Look. Jusqu'au 6 décembre 2025, les conditions s'appliquent. Chantal Gravel, opticienne.
Pendant le vendredi zen chez Tanguay, c'est le temps de se brancher sur sa petite voix intérieure. En stéréo, puis en HD à bord de ça. Parce que Tanguay offre un rabais équivalent aux deux taxes sur les produits électroniques sélectionnés. Certaines conditions s'appliquent.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jetable en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance et jouez la roulette au blackjack et à bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Quelle belle journée pour venir essayer le superbe Kia EV9 chez Kia Lévis. Avec une autonomie toute électrique jusqu'à 491 km, vous roulerez avec le sourire. Grâce à un rabais de 1000 $ et la subvention gouvernementale de 4000 $, le EV9 2026 Wind est offert en location sur 60 mois à seulement 149,95 $ par semaine. Passez vite chez Kia Lévis et venez essayer votre Kia EV9. Kia Lévis. 16 000 km par année à compte de 1000 $.
Connaissez-vous le I égale I? Les traitements du VIH diminuent la quantité de virus jusqu'à le rendre indétectable et donc intransmissible par voie sexuelle. Indétectable égale intransmissible. Pour en savoir plus, visitez le site web du Miel Québec, miels.org.
En ce moment, plus que jamais, les médecins de partout au Québec se serrent les coudes face à la loi 2 imposée par le gouvernement de la CAQ. Tous les experts le disent. Cette loi n'apportera rien aux patients que nous soignons. C'est le système qu'elle va rendre encore plus malade, en plus de retarder l'accès aux soins. Il n'y a rien là-dedans pour les patients. On ne fait que s'attaquer aux médecins, en les dénigrant et en les démobilisant. Monsieur Legault, si vous avez à cœur les patients, la loi 2 doit être suspendue. Un message de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.
C'est la vente, ben oui, chez Maxi. Profitez de milliers de baisses de prix, dont les clémentines à 4,77 $, les poitrines de poulet avec os format club à 3,99 $ la livre, 8,80 $ le kilo, et les demi-longes de porc à 2 $ la livre, 4,41 $ le kilo. Plus de rabais en circulaire et chez Maxi.
On dit qu'on a trouvé le bon véhicule quand on sourit dès qu'on s'assoit dedans. Le Volkswagen Tiguan crée exactement ce sentiment-là. Confort, espace, technologie et un je ne sais quoi qui donne envie de prolonger la route. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous pourriez l'obtenir pour seulement $122,31 par semaine, en location 51 mois, avec 16 000 km par année. Passez chez Volkswagen Saint-Nicolas. Volkswagen Scénic, quand on dit offre exceptionnelle, on le pense pour vrai.
En ce moment, c'est le Vendredi fou chez Rona. Et qui dit Vendredi fou dit nos meilleures offres de l'année.
Ah ouais, sur quoi?
Sur bien des produits, mon ami.
Pas sur l'arbre de Noël illuminé scotch de ses pieds.
Oui, monsieur, seulement $99,99.
Puis, mettons, la plaque de cuisson Blackstone de 28 pouces.
$389,99.
OK, OK. Puis, la petite pièce sur ma hotte de poêle qui fait...
convenablement. Profitez de ces offres-là jusqu'à mercredi durant le Vendredi fou chez Rona. Des conditions s'appliquent. Plus d'offres au rona.ca.
Qu'ont en commun un entrepreneur, quelqu'un qui a un grand terrain, puis un agriculteur? Ben c'est tout du monde qui aime ça siffler en travaillant fort. Et pour travailler fort, ça te prend des équipements à la hauteur de tes attentes. Ça tombe bien, JLD Lagu, ton concessionnaire John Deere, tient actuellement son événement d'équipements usagés. Ils ont toutes les marques. Ils offrent en plus des rabais comptants, du financement, des crédits bail et même des garanties. Ils font aussi un événement de réduction d'inventaire neuf. Fait que si tu trouves pas là, ça veut peut-être dire que tu sais pas siffler. Pour tous les détails, va sur jldlagu.com.
L'application Boulevard. Dans une poche près de chez vous. Poche de jeans. Poche de short. Pis même ta poche d'hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
On passe la soirée avec Dr. Joël Monzé, les docteurs en neurosciences. On parle d'intelligence artificielle. Moi, je pars des campagnes de peur à la job sur l'intelligence artificielle parce que je dis qu'un jour, l'intelligence artificielle seront des animateurs de radio, ils seront des journalistes. Par contre, y a-t-il des métiers qui pourront pas être remplacés par l'intelligence artificielle? Puis en bout de ligne, ça va-tu arriver un jour qu'on va rester assis à la maison pour avoir recevoir l'argent directement dans notre compte, comme si on était juste des tubes digestifs?
Ben, j'espère que non, parce que moi, personnellement, je ne l'envisage pas. J'ai plein d'amis dans mon environnement qui prennent leur pension pour l'instant, ils se partent à la retraite. Je ne voudrais pas leur vie. C'est certain que c'est... Il y a un côté, c'est cool, tu sais. Puis généralement, les personnes qui partent à la retraite un an, deux ans, trois ans, ils reviennent parce qu'on aime ça. Tu sais, il y a quelque part, on va voir, peut-être qu'on va juste créer d'autres métiers. Peut-être qu'on va passer plus de temps à faire de la musique. Peut-être qu'on va passer plus de temps à faire du sport. Peut-être qu'on va passer plus de temps à écrire quelque chose.
Les allumeurs de réverbères sont toujours en beau fusil depuis 1900 et quelques, là.
Oui, c'est possible, mais en même temps, je suis certain qu'il ferait d'autres choses aujourd'hui. Puis j'espère qu'en fait, que le métier des gens va être beaucoup plus axé sur le plaisir de vivre plutôt sur la nécessité de rentrer un salaire. Mais en même temps, on voit en fait qu'en Russie, c'est tout le monde, les gens qui avaient le même salaire, que tu travailles bien ou que tu ne travailles pas bien, et le communisme en Russie s'est effondré. Il se maintient en Chine parce qu'il y a, avec l'ingénierie sociale, on regarde que toutes les fourmis fassent bien leur travail tel qu'on en a besoin. Donc, si on est de nouveau dans une dynamique comme celle-là, ce ne sera pas utile. Mais si on peut aller dans notre créativité, parce qu'il y a des robots qui vont faire une partie du travail à notre place, ça va être génial. Si on passe notre vie devant TikTok, si on passe notre vie devant la télé, moi, je ne suis pas certain. En tout cas, ce ne serait pas le genre de vie que moi, je souhaiterais avoir.
Non, c'est ça. Mais tu n'as pas l'air très inquiet pour l'intelligence artificielle. J'aime ça. Tu as un autre discours, des discours peut-être un peu plus négatifs à l'égard de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il faut être positif dans ce dossier-là? Est-ce qu'il faut être négatif? Des fois, l'humain étant ce qu'il est, tu m'as nommé certaines personnes tantôt, Jeff Bezos, Elon Musk, je ne sais pas, moi, je peux penser à Mark Zuckerberg. Bon, est-ce qu'on peut laisser le sort de l'humanité entre leurs mains? Je ne sais pas. Je pense que... C'est peut-être des gens bienveillants, mais en bout de ligne, c'est l'argent qui va dominer constamment et tout le temps.
J'ai bien plus peur de ces bons hommes que de l'intelligence artificielle.
Oui! Les gouvernements, est-ce qu'un gouvernement pourrait être uniquement sur l'intelligence artificielle, Joël?
Non, parce qu'on tombe dans l'ingénierie sociale à ce moment-là. C'est que tu as une machine qui va prendre des décisions et je vais reprendre, ce sera encore pire que la période de la crise sanitaire qu'on a vécue il y a quelques années, parce que l'intelligence artificielle ne fera pas... Tu sais, une chose qu'on sait peu, c'est que quand M. Legault a fermé les restaurants le 30 décembre 2021, c'est parce que les algorithmes qui avaient été utilisés par les infectiologues démontraient que si on ne fermait pas tout à ce moment-là, il y avait 6 000 morts dans les 3 semaines qui ont suivi. Et M. Legault, comme chef d'État, ne pouvait pas laisser faire ça. Donc, on n'a pas tenu compte de la santé financière des restaurants à ce moment-là. On n'a pas tenu compte de la santé psychosociale des gens qui avaient besoin de se retrouver. On a juste vu l'hypothèse qu'il pourrait y avoir 6000 morts. Donc, à partir de ce moment-là, on voit que quand les algorithmes ne sont pas bien utilisés, que l'être humain n'a plus accès à son discernement, eh bien, malheureusement, on s'en va vers quelque chose de très problématique sur le plan démocratique. Et donc, l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer nos chefs d'État. Et je préfère avoir un chef d'État faillible, qui fait des gaffes, qui fait des erreurs. Quelque part, on l'a élu, donc il faut essayer de trouver le parti qui fait le moins d'erreurs, que d'avoir une intelligence algorithmique qui vient déterminer comment ma vie doit se fonctionner.
En espérant qu'il y ait des humains formidables qui continuent de réfléchir et de faire en sorte que notre belle société avance. Sais-tu, hier ou avant-hier, j'ai tombé sur les gens qui travaillaient à la NASA pour envoyer les astronautes, les premiers astronautes dans l'espace ou encore les faire atterrir sur la Lune. C'était des gens qui calculaient tout à la main, là, avec une précision qui était incroyable. Aujourd'hui, ce sera l'intelligence artificielle qui va calculer ça, mais sachons qu'avant, c'était des gens qui étaient capables de dire exactement, avec exactitude, avec toutes les mathématiques appliquées, où est-ce qu'on doit passer pour que tout aille bien, où est-ce qu'on doit atterrir, quand est-ce qu'on doit arriver, quand est-ce qu'on doit repartir. C'est incroyable quand même qu'on en soit rendu là. Puis ces gens-là étaient hyper importants à l'époque, mais si on utilise l'intelligence artificielle constamment, peut-être que notre cerveau se modifiera puis on n'aura plus de ces gens-là à long terme.
Mais je pense qu'ils vont devoir quand même revenir sur quelque chose. C'est qu'il y a quelques années, il y a une sonde américaine qui s'est écrasée sur Mars. En fait, tout simplement parce qu'il y a des gens qui ont travaillé avec des ordinateurs qui travaillaient en pied. Et d'autres qui ont travaillé en mètres.
Ben oui, c'était une mauvaise conversion. Ben oui.
Exactement. Donc, l'ordinateur ne pourra pas. Il va faire ce qu'on lui demande de programmer, en fait, ce qu'on aura fait avec la programmation. Mais l'être humain doit faire la même chose. On peut avoir des calculatrices, mais quand on est au magasin, si on n'a pas une certaine idée, d'accord, du coût de